Salut à toi camarade, cette émission censurée avec le DAF derrière le micral à la jactance et le Tom derrière les potards à la technique, presque en direct à l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, RCN sur les ondes 90.7 FM et sur la toile www.rcn-radio.org et aussi en redifféré sur Radio Déclic. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, en ce 921e jour d'occupation Rothschild aux défauts macroniennes et 1427e jour d'état d'urgence permanent, il est grand temps et même urgentissime d'en finir une bonne fois pour toutes avec le mal des mots, avec le capitalisme, avant que le capitalisme en finisse avec l'humanité tout entière. Car détruire ce qui est cause de destruction, détruire ce qui détruit, ce n'est pas détruire, c'est créer. Alors, crève, capitalisme, crève. C'est le deuxième épisode et ça démarre comme ça. Jusqu'au bout, hein, comme d'hab, hein, jusqu'au bout du morsif. Voilà, et ben voilà qui donne un petit peu la mesure de l'heure que nous allons passer ensemble, les amis. Bienvenue et merci d'être à l'écoute d'Émissions Censurées. Pour bien commencer cette émission au ton radical, diront peut-être certains, quoique le radicalisme a depuis très très longtemps changé de bord. Et ce sont tous les tenants, les dirigeants du capitalisme qui sont dans une radicalité extrême. Et quand je parle d'extrême, Évidemment, c'est à droite que je pense. Bon, bref, j'avais pas du tout prévu de dire ça. Ça commence bien. Premier morcif, donc, par lequel on va commencer à se soulager et puis peut-être un petit peu réfléchir à toute la merde qui nous entoure. Premier morceau qui n'est pas une première dans l'émission censurée. Ça doit faire au moins la deuxième ou troisième fois qu'on se le passe dans les esgourdes. Morceau, évidemment, de No One Is Innocent, qui s'appelle À la gloire du marché, issu de leur dernier album en date, Frankenstein, sorti en 2018 chez Vericords et distribué pareil. Donc voilà pour le thème de le soir, les amis. C'est donc bel et bien le deuxième épisode de Crève, Capitalisme Crève. Je crois que c'est pleinement d'actualité et c'est même urgent qu'on puisse partager ensemble, toi et moi, des deux côtés du poste de radio, ces bons petits morcifs qu'on va s'écouter pendant une heure et les petits commentaires qu'il y aura tout autour. Voilà, comme d'habitude, quoi. Bref, bienvenue, et donc c'est parti, alléluia, hein, par la gloire du marché. Je le trouve vraiment très très puissant, ce morceau, et absolument conscient du fait que le capitalisme n'est absolument pas, comme j'ai souvent l'occasion de le dire, je me répète, mais qu'est-ce que tu veux, c'est Alzheimer, c'est comme ça. Et pour se faire entendre des fois, parmi les très très nombreux mensonges qu'on peut entendre partout, et comme disait Coluche, c'est pas parce qu'un mensonge est gueulé une centaine de fois qu'il en devient une vérité. Donc, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, je me répète, mais le capitalisme ne relève pas d'une pensée raisonnable, mais bel et bien d'un dogme strictement religieux qui n'a plus rien du tout de rationnel. Aujourd'hui, on y est, fin 2019, et on voit le résultat que ça donne partout. Donc, alléluia, le grand capital. Le capitalisme, dans tous les cas, grands penseurs de gauche, ou comme de droite, mais surtout de gauche molle, à savoir de droite, en fait, hein, nous ont expliqué depuis des décennies, nous qui ne comprenons rien à rien, qui sommes des abrutis complets, mais le capitalisme, c'est une bonne chose. On peut réformer le capitalisme. Eh ben non. Non, preuve est faite avec le dernier mandat de pseudo-socialiste de François Hollande et compagnie que le capitalisme n'est absolument pas réformable. Est-ce qu'il est destructible ? Ça, l'histoire nous le dira. Mais en ce qui concerne la réforme, non, c'est hors de question. Alors, détruire le capitalisme, oui, c'est un très très beau programme qui, de toute façon, dont dépendra la survie de l'humanité. Mais par quoi on peut s'attaquer étant donné que le capitalisme est une pensée religieuse, le grand capital est une entité religieuse aussi. L'humanité est sacrée. Sacrifié sur l'autel du veau d'or. Alors, par quoi on peut déjà commencer à attaquer le capitalisme, sachant que ça fait quand même quelques centaines d'années que ça dure? Eh ben, par ces deux mamelles principales, celles dont tout le reste dépend, c'est d'une part le profit et d'autre part le pouvoir. Alors, bon, c'est un constat, c'est un fait. Maintenant, comment on s'attaque à ça ? Eh ben, je ne sais pas, parce que comment s'attaquer à l'instinct de prédation globale et totalitaire ? Je n'ai aucune réponse. Comment résister et détruire la rapacité de certains qui ne sont pas la majorité du genre humain et qui n'en sont même qu'une infime minorité ? Mais ça, je l'ai déjà dit aussi dans des émissions précédentes. Alors maintenant, on va écouter le morceau suivant. Puisqu'on est dans l'instinct de prédation et la rapacité, on va s'écouter un morceau des Rats que j'ai jamais encore diffusé, que je suis très heureux qu'on partage ensemble. Ce morceau s'appelle « Le Rapace ». Ça tombe bien, tiens. Oh putain. Ah bah alors. Allez, c'est parti. Y'a plein. We'll be right back.
masquer sans rougir, et je masquerai encore jusqu'au jour de ma mort. Vous me trouvez un peu cynique, moi je ne vis que pour le fric, comme l'argent ne fait pas le bonheur, je vous soulage de ce malheur.
Et voilà, Le Rapace, un morceau signé d'Era, issu de leur album Racolage, qui était, me semble-t-il, l'avant-dernier album studio d'Era, sorti en 91, chez Lera, donc autoproduit et distribué par Densteria. Donc voilà, grande question, comment en finir avec le profit et le pouvoir ? Alors, j'ai pas de réponse sociétale, enfin du moins collective, j'essaye déjà d'avoir une réponse individuelle en ce qui me concerne, à savoir rejeter toute forme de profit dans ma vie personnelle, intime, familiale et surtout évidemment professionnelle, et de l'autre côté rejeter toute forme de pouvoir et d'autorité. Ça, dans la vie sociétale, ça se fait, ça peut se faire. Et d'ailleurs, vu le genre le plus, vu le nombre de personnes sur cette planète qui est en train de descendre dans la rue pour rejeter toute forme de profit et de pouvoir, la réponse commence peut-être à se préciser. Dans tous les cas, chose que je crois que j'ai rarement dite, je viens de la noter à l'instant en écoutant les rats, la vie en elle-même, la vie n'a pas pour but ultime d'être profitable. C'est une aberration, c'est une hérésie, c'est un mensonge criminel qui n'existe que pour pouvoir justifier le pillage organisé depuis ces derniers siècles par capitalisme interposé, et sachant que la dernière démonstration qu'on peut observer de ce pillage totalement organisé et pensé, c'est les privatisations que le gouvernement Macron est en train, depuis 2 ans et demi, de mettre en place, ADP, etc. Les hôpitaux, de toute façon, tout ce qui ressemble à un service public qui existe depuis que la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée. Donc le capitalisme, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école maintenant pour s'en apercevoir, et même maintenant, et même bien avant, le capitalisme, c'est la prédation absolue et définitivement criminelle. Alors le capitalisme, ça a quand même une histoire. Où est né le capitalisme ? D'où ça vient, cette saloperie ? De quand ça date et pourquoi ça s'est mis en place. Alors, je vais essayer de faire relativement court, parce qu'on a évidemment qu'une heure à passer ensemble, comme d'habitude. Alors, le capitalisme, déjà, c'est l'héritier direct du féodalisme. Hein, donc les grands propriétaires terriens, les seigneurs, etc. D'un côté, les serfs de l'autre. Je vais pas faire un dessin. Donc c'est non seulement l'héritier direct du féodalisme, mais aussi de l'esclavagisme et aussi du colonialisme. Donc depuis ces derniers siècles, cette espèce d'instinct de pensée de prédation s'est mise en place en arrivant à faire muter toujours ce système d'exploitation de l'humain par l'humain, comme disait l'autre barbu, sachant que quand même l'esclavagisme, c'était une vraie saloperie. Alors évidemment, on peut parler de différentes époques de capitalisme aussi. En ce qui concerne le féodalisme et particulièrement l'esclavagisme, on peut parler de capitalisme commercial, commerce sur la traite des humains, ce qui est quand même vraiment, vraiment très, 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 très sympathique. Tout ça pour pouvoir, on exploite une main-d'œuvre totalement gratuite, qu'on déporte directement d'Afrique, qu'on envoie dans les colonies pour pouvoir Pour pouvoir faire du profit, donc toujours sur une main d'œuvre gratuite jusqu'à la mort. Quoique, il était quand même beaucoup moins facile d'assumer la mort d'un de ses esclaves, parce que ça coûtait du pognon d'acheter un esclave, alors que par exemple la mort d'un salarié ne coûte rien au capital, parce que de toute façon il y aura tout de suite un autre salarié qui prendra la place de celui qui vient de crever. Alors que ça posait déjà beaucoup plus de problèmes au niveau du régime esclavagiste, ce qui en dit beaucoup sur le capitalisme, le néolibéralisme aujourd'hui. Et bon, évidemment, le colonialisme avec la richesse qui va avec, richesse de ce continent dirigé par une bande de sociopathes complètement cinglés qui est et qui reste malheureusement l'Europe, et qui aura fait un mal fou au monde entier depuis donc ces derniers siècles et des siècles et des siècles. Voilà, amen. Maintenant je pense que j'ai fait le tour de ma petite note, oui. Voilà, alors bon, puisqu'on est là-dedans, on va parler maintenant par Bertrand Cantat, interposé, qui est quand même franchement ostracisé, censuré, en ce moment, qui est un des plus grands artistes français indépendants, actuellement, et qu'on peut plus entendre sur scène parce qu'une bande de féministes réactionnaires est totalement hystérique. Et je ne parle pas de l'ensemble des féministes, parce qu'on ne peut pas parler d'un féminisme, mais évidemment de beaucoup. Mais là, de la manière dont c'est en train de se passer, dont cet artiste est en train de se faire censurer... c'est pas un Éric Zemmour qui se fait censurer. Si les hordes, si les mêmes féministes mettaient autant de baume au cœur à censurer un vrai sociopathe phallocrate et vraiment dangereux qu'est Zemmour. Voilà, ça commence par un Cantat, c'est bien dommage parce que Cantat a des choses beaucoup plus intéressantes à dire, ce qu'on va écouter maintenant avec un morceau qui s'appelle Silicon Valley.
Et une police love and peace. Je prends soin de toi, tu sais. Je te sais faible, alors j'ai comme projet de faire ton bonheur malgré toi. C'est pas la première fois qu'on te fait le coup. Oui, mais là, on te jure que c'est la bonne.
Silly, silly, silicone. Silly, silly, silicone. Silly, silly, silicone. Valley.
Voilà, comme ça fait du bien d'entendre un petit peu de Bertrand Cantat, complètement censuré par des féministes d'extrême droite. Voilà, super. Silicon Valley, j'espère que t'as bien apprécié et bien tendu l'oreille à l'évocation du texte de Bertrand, qui est vraiment une pure petite merveille d'intelligence et de contestation. Voilà, ce morceau est issu du dernier album de Bertrand Cantat qui s'appelle Amor Fati, sorti en 2017 chez Barclay, un label Universal Music France. Voilà, alors Silicon Valley, ben oui, c'est là-bas que toute la fortune du monde est détournée. C'est à peine caricatural ce que je dis, ça l'est un petit peu, mais à peine. Les fameux GAFAM, hein, c'est ça, Google, Amazon, F pour Facebook, le deuxième A c'est pour qui ? Apple, merci. Et puis le M pour Microsoft ou Microsoft, un truc comme ça, voilà. Voilà, donc par exemple, les GAFAM, on peut dire, qu'ils sont responsables d'un énorme détournement de fonds publics. Ne serait-ce que si on regarde le truc par la lorgnette des droits d'auteur en ce qui concerne la musique. Et ben, par exemple, quand tu écoutes un morceau sur Spotify, et ben, sache que l'artiste que tu écoutes ne gagnera 1 euro qu'à partir de 250 écoutes. Tout le reste de la thune part dans les poches des grands pontes, des GAFAM, qui pendant ce temps pensent sauver l'humanité dans tout leur délire de comme on appelle ça, le complexe de Dieu, hein, Jeff Bezos qui compte conquérir, enfin du moins coloniser, tiens on est encore dans la colonisation, coloniser Mars et l'espace pour pouvoir sauver l'humanité, ou par le biais du transhumanisme qui est de toute façon une aberration totale. Mais quand on touche des monceaux de pognon comme ça, c'est difficile effectivement de garder les pieds sur terre et de rester en cohérence avec l'humanité. Voilà, donc... Alors après Bertrand, Silicon Valley, petite réflexion autour du capitalisme d'aujourd'hui, enfin du moins de ces dernières décennies, puisque le capitalisme est une idéologie qui a tendance à muter. C'est d'ailleurs l'idéologie qui connaît le plus de mutations. Ce capitalisme est capable d'intégrer sa propre contestation pour pouvoir mieux détourner la contestation, la faire sienne. Et est-ce que c'est clair ce que je dis, mon Tom? Le capitalisme est capable de récupérer sa propre contestation pour pouvoir se transformer et encore survivre et perdurer et toujours détruire. Alors quand on parle de néolibéralisme, même si aujourd'hui on peut parler de turbolibéralisme, mais voilà, officiellement le terme ça reste quand même néolibéralisme. Alors déjà libéralisme, la liberté, etc. Ce qu'on appelle le libertarisme, les libertariens, hein, qui sont en fait comme des anarchistes, mais uniquement par le biais de l'économie, de l'argent. Le seul domaine à pouvoir être totalement libre, non, c'est pas les êtres humains, c'est pas. Non, c'est uniquement l'argent. Donc voilà, en ce qui concerne le libertarianisme, je vais le dire comme ça, donc qui est l'enfant maudit, l'héritier maudit d'une certaine forme très très pervertie et totalement sociopathe de l'anarchisme. Alors, en ce qui concerne le néolibéralisme, comme je le soulevais, je le suggérais, me semble-t-il, il y a deux semaines, le néolibéralisme, on peut donner maintenant une date de naissance à cette saloperie. C'est le 11 septembre 1973, à savoir le jour du coup d'État de Augusto Pinochet au Chili contre Salvador Allende, qui a été un des seuls dirigeants, du moins en Amérique du Sud, ou le premier à cette époque-là, parce qu'en Afrique, il y en a eu quelques-uns aussi, qui sont fait buter très vite à l'instar d'Allende, qui, comme je le disais, à la différence de il y a deux semaines, comme je le disais, ne se serait pas fait exécuter en direct le jour même, le 11 septembre 1973, par les soldats de Pinochet, dans le palais présidentiel, mais se serait tiré une balle dans la tête. J'ai vérifié sur Wikipédia, c'est la conclusion de Wiki. Bon, après, voilà. Donc, alors, un grand nom à côté apparaît quand on évoque effectivement le coup d'État de Pinochet et l'instauration d'un régime capitaliste radical, dur, violent, évidemment autoritariste et totalitariste, mais aussi complètement nouveau dans le visage du capitalisme tel qu'on le connaissait avant cette date-là. Ce visage, on peut mettre un nom dessus. Ce nom, c'est Milton Friedman. Alors, Milton Friedman, il a été prix Nobel de l'économie en 76 et c'est le fondateur de la tristement célèbre École de Chicago. Milton est devenu un ami intime de Pinochet et les théories économiques de Milton, que je vais pas vous résumer ici parce qu'on n'a pas le temps, mais bon, tu peux aller te renseigner, hein, comme d'habitude, chacun fait son boulot de son côté, si t'es curieux, vas-y, n'hésite pas. Pinochet a directement en fait appliqué le programme économique de Milton Friedman, qui est donc un des fondateurs du néolibéralisme. Alors Pinochet est donc au pouvoir de 73 jusqu'à 88. C'est intéressant, les années 70, le revirement après la trouille qu'ont pu ressentir tous les dirigeants d'État comme du capital après les années 68-69, qui ont été des années pleines d'utopie, de fraîcheur, de liberté, de... Bon, hein... C'est... voilà. Alors, donc, Pinochet, de 73 à 88... Quelques années après, 6 ans après, arrive au pouvoir en Grande-Bretagne Margaret Thatcher, qui a fait du néolibéralisme un programme mondial et totalitaire, puisque d'après les propres termes de Thatcher, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme. Et 2 ans après, arrive Ronald Reagan, bon réactionnaire aussi, dénonciateur pendant la chasse aux sorcières contre les metteurs en scène, les cinéastes et les acteurs considérés comme communistes à Hollywood dans ces années-là, auxquelles Reagan a vachement contribué. Donc voilà, le trio infernal était réuni pour que le néolibéralisme cette nouvelle forme de capitalisme encore plus sauvage, encore plus cannibale, encore plus prédateur, a réussi à se mettre en place. Tout s'est mis en branle en moins de 10 ans, entre Pinochet, Thatcher et Reagan. Voilà d'où vient ce foutu néolibéralisme. Alors, on peut aussi évoquer aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même, il y a une question qui se pose, c'est que, bon voilà, quand on parle de révolte, de rébellion, d'insurrection, de révolution, ok, mais contre qui on se révolte? Parce que, en fait, en face de nous, on a des dirigeants pour lesquels on a voté, ou pas d'ailleurs, parce qu'on est maintenant une majorité à ne plus voter pour ces représentants qui n'en ont jamais été. Donc voilà, c'est comme taper sur un flic ou cracher sur un flic quand on veut se retourner contre l'État. C'est comme se révolter ou s'énerver à la caisse contre la caissière dans un supermarché quand on veut quand on n'est plus d'accord avec la grande consommation. Voilà, on ne fait finalement que s'insurger contre les pions, les premiers pions qu'on met en face de nous. Mais la question qui s'intéresse, c'est bon, comment faire tomber un Macron? Bon, ça, en France, je pense qu'on a une expérience assez radicale des renversements révolutionnaires. Mais en ce qui concerne les dirigeants, les vrais dirigeants, à savoir ceux qui dirigent nos dirigeants, là, on commence à rentrer dans une nébuleuse totalement floue où on ne sait pas effectivement qui tire vraiment les ficelles pour qu'on se retrouve avec des contre-réformes depuis 2 ans et demi, au minimum avec Macron, parce que les contre-réformes, ça fait quand même 30-40 ans qu'on les subit dans la gueule, et maintenant on voit exactement le résultat que ça implique. Et les exemples les plus flagrants, ça reste quand même dans les écoles et dans les hôpitaux aujourd'hui, même si j'oublie pas le reste. Donc, Eh ben des fois, la réponse, elle tombe quand on regarde la télé. Alors, sur Arte, évidemment, hein, je parle de télévision, pas de manipulation de masse financée par Bolloré et animée par Hanouna et Zemmour. Donc, eh ben des fois, on arrive à mettre un nom, un visage sur les vrais dirigeants du monde. Et en l'occurrence, il y en a un. La boîte s'appelle BlackRock. Et son fondateur s'appelle Larry Fink. Alors BlackRock, si tu sais pas ce que c'est, avant de tomber sur complètement par hasard sur un documentaire sur Arte là-dessus, que je te recommande d'ailleurs très très fortement, BlackRock sur Arte, je sais plus du tout le nom du documentaire, mais peu importe. Alors BlackRock, c'est une multinationale qui est en fait la plus grande, la plus importante... le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Sachant que le portefeuille que BlackRock gère s'élève à, accroche-toi bien à ton calbar ou à ton string, s'élève à 6 000 milliards de dollars. Je répète, 6 000 milliards de dollars. C'est une structure totalement tentaculaire qui a investi dans tous les conseils d'administration, déjà d'une part de toutes les plus grosses entreprises multinationales en bourse, etc. Mais également, dans les plus petites, on les retrouve partout. BlackRock est partout. Qu'est-ce que j'ai là, écrit là? Putain. Voilà. Et ce qui est intéressant, je me relis, je vais avoir besoin de lunettes bientôt, je crois. Hein. 47 ans, ça me pend au nez. Donc, ceci étant dit, BlackRock est devenu, son pouvoir est devenu exponentiel à partir de la crise de 2008, parce qu'elle a été la seule structure économique, d'ailleurs c'est son boulot, hein, anticipée sur les risques d'écroulement boursier. Elle s'en est tellement bien sortie, cette boîte, qu'en fait elle a réussi à phagocyter la crise pour que le capitalisme puisse encore phagocyter son propre écroulement, et encore, tel le phénix, renaître de ses cendres, etc., etc. Et 10 ans, 11 ans après, eh ben on voit où on en est. Alors, maintenant, ceci étant dit, puisque le profit est une des deux mamelles et que du capitalisme et que le deuxième c'est le pouvoir, donc la hiérarchie. Alors on va se retrouver avec Stupeflip qui nous chante ce fabuleux morceau, c'est pas la première fois qu'on le partage, je suis bien d'accord, ce fabuleux morceau que je me fais un replaisir de nous rediffuser dans la gueule et qui s'appelle Abba, la hiérarchie.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô?
Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte.
Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
Ouais!
Allez vous faire foutre!
Je me suis un peu abîmé la voix en hurlant « Allez vous faire foutre !» Mais bon, ça fait du bien par où ça passe. Voilà donc un magnifique morceau de King Ju, à savoir Stupeflip. Abba la hiérarchie, c'est bien la quatrième ou cinquième fois qu'on se l'écoute dans l'émission censurée, et à chaque fois, ça a une saveur particulière, et particulièrement aujourd'hui, va savoir pourquoi. Donc, issu du premier album de Stupeflip,
Stupéflic, pardon. Stupéflip, ma langue a fourché. Il n'y a absolument pas de lapsus révélateur là-dessus. Donc, premier album de Stupéflip, qui s'appelle Stupéflip, qui est sorti en 2002, au départ chez BMG France, et puis ensuite réédité de manière auto-gérée avec Ethic System, donc à la production, et l'autre distribution à la distrib, donc, et ça en 2012. Voilà, alors la hiérarchie, donc profit d'un côté, pouvoir de l'autre. Pouvoir, alors... J'ai trouvé tous ces petits arguments que j'essaye de vous balancer entre déjà capitalisme commercial, productiviste, financier, féodalisme, esclavagisme, colonialisme. Bon, ça, je l'avais déjà en tête depuis un petit moment, mais ça fait du bien de voir des documentaires où ces choses-là dont on entend absolument, ou alors que très rarement parler, te tombe un petit peu comme ça dessus et tu te dis « Ah bah finalement, je pensais pas autant de la merde que ça. » La hiérarchie, voilà. La hiérarchie, c'est forcément déjà inspiré du système militaire. Ça, c'est pas une... Ça, je radote aussi. Hein. J'ai déjà évoqué le milieu, l'organisation entrepreneuriale et industrielle directement calquée sur le système hiérarchique militaire. Mais il y a un terme que je connaissais pas, qui est pourtant très très clair, qui apparemment vient du vieux barbu que j'évoquais tout à l'heure, le vieux barbu autoritaire aussi, hein, à savoir Karl Marx, qui parlait de, j'ouvre les guillemets, de lien de subordination. Voilà. Le lien de subordination, c'est ce qui justifie l'ensemble du système hiérarchique. C'est-à-dire que en tant que travailleur, en tant que tu offres de ton temps de vie pour produire de la richesse de travail, par ton temps de travail. Le truc, c'est que forcément, comme les travailleurs sont trop cons, ou les humains, hein, les citoyens sont trop cons pour se diriger par eux-mêmes, vient évidemment ce lien de subordination. Ce qui veut dire... Ah bah je parlais du documentaire dans lequel j'ai vu ça, c'est marqué juste là, le documentaire, puis je terminerai après. Le documentaire s'appelle « Travail, salaire, profit », à l'instar de « Travail, famille, patrie ». Là c'est bien « Travail, salaire, profit », il y a 6 épisodes, c'est réalisé par Gérard Mordillat, qui a fait beaucoup de choses aussi, et qui a qui a vraiment le à la différence de tous les cinglés qu'on peut voir à la télé, qui est un grand intellectuel. Oui, effectivement, ça existe encore, des gens qui réfléchissent dans le bon côté des choses. Donc Gérard Mordillat a invité tout un tas d'intervenants, économistes, sociologues, chercheurs, historiens, philosophes. On y retrouve évidemment... Ah bah voilà, j'aurais dû le noter, pourtant je l'ai sur le bout de la langue, je redirai ça après. C'est d'ailleurs lui, Frédéric Lordon bien sûr, Frédéric Lordon, qui résume ça de manière aussi limpide que directe et clairvoyante, puisque s'il n'y a plus de lien de subordination, forcément il n'y a plus d'hiérarchie. S'il n'y a plus d'hiérarchie, il n'y a plus de capitalisme, c'est aussi simple que ça. Ça paraît tellement compliqué, mais mais c'est vrai que tout ça est très très complexe. Mais de temps en temps, une pensée claire, limpide et directe, ça fait du bien. Oui, plus de hiérarchie, plus de capitalisme. Et voilà par où on peut commencer à attaquer le truc. C'est-à-dire refuser totalement le lien de subordination qu'on nous fait subir en tant que travailleurs et en tant que chômeurs aussi, depuis que le capitalisme est devenu industriel, à savoir, disons, 120 ans, grosso merdo. Voilà. Bon, ce qui me fait venir à la conclusion que pour les capitalistes, la chair humaine ne vaut vraiment pas cher. Ah ben, ça tombe bien, c'est pile poil le titre d'un morceau de TH. Collector en plus. Live. Collector. Ouh là 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 là.
La chair humaine ne vaut pas cher. We'll be right back.
Comment ça, le son est complètement pérave? Ah bah, c'est normal, gros. C'est la chair humaine. Donc, titre qu'on ne retrouve absolument pas sur les albums, les vrais albums de TH qui sont venus par la suite, parce que cet enregistrement-là date, figure-toi, de 82. La cassette s'appelle Live in the Church. C'est sorti à l'époque chez Viril Star. Label alterno complètement tombé dans l'oubli. Donc la chair humaine est extrait de la première cassette live, donc Live in the Church, sortie à seulement 2 exemplaires et enregistrée en public lors de la première partie au TH, faisant la première partie d'un groupe qui s'appelait The Lords of the New Church, et le concert a eu lieu à Grenoble le 17 novembre 1982 précisément, sachant que aujourd'hui, on est le 13 novembre. C'est marrant. Et sachant qu'hier ou avant-hier, ou lundi, on était le 11 novembre. Ah, ça tombe bien parce que, en fait, j'aurais bien aimé, pour ce soir, faire une émission justement sur la guerre, à bas l'armée, à bas la guerre. Je ne sais plus combien d'épisodes j'ai pu en faire ces 11 dernières saisons. Mais je me suis dit que de toute façon, il était urgent de faire au moins une émission, puisque vu le temps qui nous reste, on va se faire la suite la semaine prochaine, de faire au moins une émission sur la destruction urgente du capitalisme. Et je me suis dit que de toute façon, la guerre faisait partie intégrante du capitalisme. La guerre en tant que la guerre en tant que purge du système, la guerre en tant que meilleure arme de destruction massive des luttes sociales. Et il y a un très très joli mot d'ailleurs de Jean Jaurès là-dessus, qui je cite, j'ai trouvé tout à l'heure, je vais te le dire parce que tu me connais, je suis vachement partageux. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Voilà, Jean Jaurès, qui s'est fait buter exactement 2-3 jours avant que l'Allemagne ne déclare la guerre à la France, et qui était un militant socialiste, quand le socialisme signifiait encore quelque chose à l'époque, et qui s'est fait buter par un mec qui s'appelait Vilain, qui était un militant d'extrême droite, et qui en 19 s'est fait acquitter du meurtre de Jaurès. Et c'est sa femme, la femme de Jaurès, qui a payé... Qui a payé je sais plus trop quoi. Va voir ça sur Wikipédia, tu verras, c'est assez évocateur. Donc avant qu'on ne finisse aujourd'hui sur la guerre, je voulais quand même faire un petit commentaire sur le fait que la chair humaine effectivement ne vaut que dalle. L'humain n'est absolument pas considéré comme un être pensant et vivant par le capitalisme. Non, l'humain n'est qu'une variable d'ajustement. Point. Travailleur ou chômeur, même constat. Qu'on soit travailleur ou qu'on soit chômeur, on est tous exploités, on est tous colonisés, on est tous esclaves. Alors évidemment, le capitalisme ne fait que survivre par ce système-là, c'est-à-dire la grande division ultime du travail. On divise et on monte les gens les uns contre les autres pour que la concurrence soit effective et partout. La concurrence des humains contre les humains. Qu'on soit travailleur ou chômeur, par exemple, le chômage, c'est un truc structurel totalement velléitaire. C'est voulu, le chômage. C'est voulu pour créer ce que les capitalistes eux-mêmes appellent une armée de réserve. Quand j'évoquais tout à l'heure l'esclavagisme et qu'il était plus difficile pour un propriétaire d'esclaves de perdre un esclave parce qu'il perdait de l'argent en faisant crever son esclave, et que le capitaliste, lui, n'a plus de soucis, puisque de toute façon, si un salarié meurt par trop de travail, par accident de travail, par empoisonnement, par tout ce que tu veux, par exploitation jusqu'au trognon, le capitaliste, il s'en fout, puisque de toute façon... L'armée de réserve est là et qui pourra très très vite remplacer le travailleur par un chômeur qui deviendra etc etc etc. Donc la matrice capitaliste, elle est partout, jusqu'au temps qu'on vit. Le temps que nous vivons n'est pas le temps naturel, c'est le temps capitaliste. Le temps, les horloges, la montre, tout ça, le fait qu'on commence à travailler à une certaine heure pour terminer à une certaine heure, ce temps-là, il a été créé par le capitalisme. À une date d'ailleurs qu'on peut, et à un endroit qu'on peut facilement retrouver, ça s'est passé en Angleterre avec justement la construction des premières lignes de fer où il a fallu bien créer des horaires pour que les gens puissent prendre le train, etc. Et voilà de quelle manière le capitalisme a phagocyté, a récupéré le temps humain pour en faire un temps industriel. On peut parler de l'esprit aussi, mais peut-être que j'y reviendrai la semaine prochaine. Dans tous les cas, j'avais encore pas mal de choses à balancer encore aujourd'hui, mais le temps étant le temps, et étant donné que nous n'avons qu'une heure à passer ensemble, eh ben, il faut bien passer. Le temps n'est pas extensible. Tu me connais. Donc, j'avais prévu de faire un seul épisode. Eh ben, on s'en fera un deuxième la semaine prochaine. Ça tombe bien parce que j'ai encore plein de choses à dégueuler, plein de choses à partager, plein de choses à essayer de comprendre et à essayer qu'on puisse le comprendre et le partager ensemble. On va se quitter donc en cette prélendemain, hein, comme on dit. On est mercredi ce soir, hein, moi je m'y perds aussi. Avec un morceau donc sur la guerre, un morceau des Happy Drivers. Alors là, c'est la première fois que je le passe, celui-là. Il est issu de l'album War, ça tombe bien, c'est sur la guerre, sorti en 90 chez Boucherie Productions et distribué par Piaz France. Et le morceau avec lequel nous allons nous quitter, camarades, s'appelle Blood and War. Du sang et de la guerre. Merci, bonsoir. Attention, c'est là.
He has the taste for blood and war.
Merci d'avoir escourdé l'émission censurée, les amis. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. C'était le Tom à la technique. Merci, mon poteau. On aura réussi sans trop transpirer à finir dans les temps. Wouh ! Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la même thématique et pour de nouvelles aventures alternatives. Aujourd'hui, plus que jamais, mais bien moins que demain, vive la résistance à la connerie dominante, à mort tous les fascismes, à mort le capitalisme. Vivement la grève générale illimitée et la révolution mondiale permanente. Vive le rock, la radio et l'humanité libre. Et vive la vie. Merci, bonsoir. Fucking war et fucking capitalism. Ouais. J'ai commencé à me mettre parmi en anglais.
Yes, sir.
Fucking quoi? Merci, bonsoir.